Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en Derby Plus ou sur Radio Alliance Plus. .fr. Monsieur le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est aujourd'hui une émission à trois que je vous propose. Je suis accompagné par le docteur Michel Boisseau, qui est un ami. Michel est spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Il est le gendre du professeur René Bosque, pédiatre. Nous avons travaillé ensemble au centre antidouleur du CHU de Nîmes. Michel m'a fait la grande joie de me présenter monsieur Max Abric, ergothérapeute. Je les ai invités aujourd'hui pour évoquer et nous parler d'un médecin nîmois exceptionnel, le docteur Marc Monod, le créateur et l'inventeur. On peut bien dire l'inventeur, ce nouveau concept, l'inventeur de Serre Cavalier à Nîmes, le centre de gérontologie et de gériatrie du CHU de Nîmes. Bonjour à vous messieurs, un immense merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je me tourne d'abord vers Michel Boisseau, car c'est lui qui va nous parler et nous raconter de la vie exceptionnelle de Marc Monod. Alors, Michel, alors d'abord, deux mots sur toi. L'ATP, d'abord.
Non, étant très ami avec les enfants aînés de la famille Monod, j'ai bien connu le docteur Marc Monod. Il faisait partie de notre association de randonnée pédestre, l'ATP.
Voilà.
Ce qui veut dire l'association du tourisme pédestre.
Voilà, c'est important. C'est toi le président ?
Je l'ai été pendant 18 ans.
Bon, alors tu
es... Je suis toujours l'animateur.
Tu es président honoraire, d'accord. Alors, parle-nous de...
Tu avais interviewé le docteur Bernard Cavalier
oui.
à propos du docteur René Bosque, qui était le grand ami de Marc Monod. Cela m'avait donné l'idée d'évoquer Marc Monod. J'emprunte donc au docteur Bosque quelques extraits du CV qu'il avait écrit lors de la disparition de Marc Monod.
Oui.
Il écrivait « Un grand médecin disparaît, Monod, 1911-1995. Il a fait de solides études à Marseille où il est externe des hôpitaux. Il est admissible à l'internat des hôpitaux de Paris, mais est mobilisé en 1939. Il est fait prisonnier en juin 40. Il est libéré en novembre. Il s'installe alors au Malzieux en Margeride en 42. »
42 à Lozère, donc hein.
Ah bon, très bien, très bonne remarque.
Oui, mais 42 dans Lozère, quand on connaît la Lozère de 2026, donc 42 Lozère.
Il parcourt la campagne avec courage et dévouement. Il se dépense sans compter dans la résistance. Son épouse, pratiquant la langue allemande, se montrera très efficace et pourra même protéger le Malzieux, risquant d'être détruit lors des combats du Mont Mouché en 44.
Mais qui était un sanglant.
Le frère de Marc, Jacques Monod, sera tué au Mont Mouché en tant que résistant. À la suite de ces événements, il est nommé, Marc Monod, président du comité local de libération en 45, puis maire du Malzieux. Monod s'installera à Nîmes en 48 comme généraliste.
Alors, 30 secondes. Donc, il était installé en Lozère, après avoir fait les études. Donc, il s'est installé comme médecin généraliste en 42, donc à l'époque, c'était... Hein. Et puis, ça a été un grand résistant.
Alors, j'ai une anecdote.
Oui.
Importante. On lui dit, il y a un blessé grave, il faut absolument que vous veniez. Ce blessé avait été blessé... Bon, peu importe. Après le Mont Mouché, il a eu un garrot pendant 36 heures,
oui,
donc gros problème
oui,
de gangrène. Monod, donc, va le soigner dans une ferme, en prenant des risques
oui,
calculés.
De l'époque, oui.
Pour ça, il va passer chez le boucher, qui était un sympathisant,
oui.
qui lui prête une scie, qu'il faut désinfecter, il faut voir comment, en l'attrapant, trempant d'un côté dans de l'eau bouillie.
Ouais.
Et puis la scie est trop longue, il faut la positionner dans l'autre sens. Bon, ensuite, il procède à la...
Il ampute le bras, quoi, hein. Donc dans l'amputation, il faut scier l'os.
Au-dessus du coude. Donc le blessé en réchappera, mais après des difficultés. Alors, pendant l'opération, coup violent à la porte. Donc,
et ils ont peur des Allemands.
Ils ont une peur bleue, et puis il s'avère que c'était la queue d'un gros chien qui battait sur la porte. Voilà.
Si vous voulez, quelqu'un qui s'est installé en 42 en Lozère pour faire la médecine générale, c'est une autre époque. Puis il a été résistant, donc il a participé, puis il a été maire, et il vient s'installer à Nîmes comme médecin généraliste.
En 48. Il va se spécialiser en gérontologie au moment où cette nouvelle spécialité s'organise.
Alors, en fait, ça n'existait pas comme spécialité, c'était une orientation. Les médecins se spécialisaient dans leur pratique, mais il n'y avait pas de spécialité en gérontologie. La capacité de gérontologie est un peu antérieure. Non, ce n'est pas une capacité, c'est la spécialité de gérontologie date des années 80, enfin, 2000, autour de 2000.
Avec le directeur de l'hôpital Groschex, il suscite la création du service de Serre Cavalier. Il en sera le directeur médical de 63 à 78. À ce titre, il recevra la croix de la Légion d'honneur. Ses compétences médicales, son autorité morale, sa droiture font de lui un conseiller précieux de plusieurs associations, dont celle des Amis de Serre Cavalier, qui fut son enfant. Il fut aussi longtemps un conseiller actif et écouté de l'Église réformée de Nîmes. Tous ceux qui l'ont connu gardent l'image d'un homme de conviction, de tolérance, à l'esprit cultivé et plein d'humour. Mono, un nom dont l'éclat appartient à notre instance, à notre histoire, a-t-on pu lire dans la presse locale de Margeride après sa mort.
Ouais, donc on les comprend, oui. Donc c'est le docteur Monod qui a créé vraiment Serre Cavalier. Donc pour résumer, il s'installe comme médecin généraliste en Lozère avec tous ses exploits de résistant. Il vit à Nîmes en tant que médecin généraliste. Il quitte la médecine générale, il a dû s'installer libéral, et il devient exclusif, enfin de pratique exclusive, gérontologie, et il crée Serre Cavalier. Alors il crée Serre Cavalier le bâtiment, mais les services, M. Abric va nous en parler, et surtout il crée un nouveau contexte, une nouvelle spécialité, une nouvelle vision des choses, c'est de s'occuper de la personne âgée. Voilà. Dis-nous, Michel.
Alors, il s'agissait alors à l'hôpital d'un hospice de vieillards.
Voilà, parce qu'avant, c'était les indigents.
Confinés dans de vastes salles communes sinistres. Et j'en ai le souvenir, moi, en garde d'interne.
Parce que Michel était interne à l'hôpital de Nîmes.
Quand on allait en garde, on prenait la main de la surveillante, tellement on était impressionnés. Alors, cet hospice est devenu la faculté actuelle de Nîmes, faculté de médecine. Mono est un précurseur dans le refus du confinement des personnes âgées. Toute cette démarche s'attachera à faire du passage dans le secteur personnes âgées qu'une étape transitoire.
Oui.
Remettre le vieillard debout est son objectif, qu'il donne aux équipes de jeunes médecins et aux soignants. Les médecins adjoints sont les docteurs Côte-Choyant et Grimaud. Il leur faisait entièrement confiance. Il leur laissera beaucoup de liberté. Moi-même, interne dans le service de rééducation de l'hôpital, qui vient d'être créé, je viendrai en consultation une fois par semaine. Mieux que moi, car il a passé toute sa carrière, M. Abric, ergothérapeute, pourra vous parler du travail accompli et du docteur Monod.
Très bien. Alors maintenant, dis-nous peut-être, tu as d'autres choses à dire sur M. Monod ?
Si tu veux. Alors, j'ai un extrait de son discours lors de la visite du ministre.
On t'écoute.
Où Max Abric était présent. Il parle de l'état d'esprit hospicien chez certains médecins et administratifs. Condescendance apitoyée, sinon agacée, avec laquelle les tenants des disciplines nobles considèrent le travail du personnel médical et paramédical des centres de gériatrie.
Oui.
La gérontologie n'est pas une discipline mineure, pourtant. Elle est difficile parce que la maladie est embrouillée, le traitement épineux. C'est une discipline qui ne supporte pas le travail solitaire. Il doit être exercé par une équipe soudée, associant médecins, soignants, administratifs et bénévoles.
Oui, c'est important. Voilà, on peut faire un petit éclaircissement pour les auditeurs entre gérontologie et gériatrie. Bien souvent, on met les deux. La gérontologie, c'est l'étude de la personne âgée, mais dans son évolution normale. Hein, je veux dire, c'est une personne âgée. Alors, quand on devient âgé, c'est à vous de voir. Bon, et puis la gériatrie, c'est le soin et les traitements, enfin, par rapport aux personnes âgées malades. Hein, donc c'est le soin de la personne âgée, c'est deux choses différentes. Alors tu vas peut-être nous dire ce que pense le responsable de Cercavalier actuellement.
Voilà, alors ça c'est donc le docteur Le Guillou, qui est le médecin-chef et de Cercavalier et du service de médecine gériatrique du CHU de Nîmes.
Que tu as contacté, qui t'a écrit et qui t'a donné...
Et que j'ai eu au téléphone hier. Il me disait, figurez-vous que j'ai obtenu que la CME, la commission médicale...
Oui, la commission d'établissement médical.
Voilà, c'est ça, de l'hôpital de Nîmes, se réunissent à Cercavalier mardi 14 avril.
Ah ben alors c'était hier.
C'est extraordinaire.
Alors, nous, on enregistre le 15 avril.
Voilà. Alors, il me disait, j'ai la charge du site de Cercavalier depuis 3 ans, je me retrouve en tout point dans les projets de l'époque du docteur Monod.
Voilà.
La population est vieillissante, c'était le cas en 63, toujours le cas aujourd'hui. Les locaux pour patients âgés doivent offrir même qualité hôtelière. C'est toujours le même combat. Toujours d'actualité, tendre vers autonomie du patient, le lever, le stimuler. Et deux aspects que soulignait Monod, l'association du bâtiment adapté, de l'organisation, du personnel, plus le personnel, c'est un soin en soi.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins gériatres actuellement se trouvent dans les mêmes dispositions que quand le docteur Monod, Marc Monod, a commencé. Et il y a eu une évolution parce qu'il l'a fait, mais il se trouve devant les mêmes difficultés et les choses ne sont pas prises en charge.
Et Le Guillou, comme Monod, insiste sur le fait qu'il faut créer un courant centrifuge, c'est-à-dire essayer de lier, d'éloigner le patient du lit hospitalier.
Voilà. Mais on te remercie pour l'évocation de la vie de cet grand homme, hein, et de cet inventeur, hein, de Cercavalier. Alors, il faut vous dire que, j'en parlais avec Camille Lapierre il y a peu de temps, les gens venaient de France entière pour voir Cercavalier, d'Europe entière pour voir, parce qu'il avait vraiment inventé un concept de gériatrie, là, hein, de prendre en charge la personne âgée. Et donc, c'est important. Alors, je vous propose une trêve musicale avec... Jacques Brel, qui nous interprète Les Vieux.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui la vie et l'œuvre de Marc Monod, médecin nîmois. Alors, on a entendu sur la vie Michel Boisson, docteur Michel Boisson. Il a un mot en plus à nous rajouter.
Monod insistait sur la difficile gestion des patients avec des troubles cognitifs.
Oui, ce qui
et ça existe toujours, bien entendu. Alors, le texte du docteur Monod datant de 1963 dit... le docteur Le Guillou actuellement, est en tout point visionnaire. Ce qu'ils ont fait à l'époque nous a permis de faire un bond de géant.
Voilà. Alors maintenant que nous connaissons mieux Marc Monod, sa vie, son œuvre, nous allons évoquer son œuvre avec M. Max Abric, ergothérapeute par la volonté du docteur Monod. Bonjour à vous, monsieur. Le docteur Monod avait comme devise gérontologique, que je trouve exceptionnelle, tout faire pour eux, il parle des anciens, ce qu'on appelle les vieux, hein, donc tout faire pour eux et rien à leur place, qui se trouve une magnifique formule médicale. Alors, monsieur Abric, tout en vous présentant mieux que ce que je l'ai fait, racontez-nous l'œuvre du docteur Monod.
Bonjour. Donc, le docteur Monod, je l'ai connu déjà le jour de l'inauguration, je l'ai vu... à Serre-Cavalier, j'étais là en tant qu'agent hospitalier.
Alors, excusez-moi, les bâtiments, c'est lui qui les a fait construire
ou... Oui, enfin, voilà, c'est le docteur Monod qui a même fait qui a proposé
Le côté médical. Le bâtiment, c'est plutôt le directeur.
Il en était peut-être l'instigateur, en disant qu'il faudrait construire des bâtiments pour les personnes âgées.
Mais c'est lui surtout qui a voulu des dortoirs plus petit que l'hospice, dont il y avait des chambres à 5 lits, des chambres à 3 lits, des chambres à 2 lits, à 1 lit, et dans les pavillons aussi, parce qu'il y avait le grand bâtiment qui faisait...
Ouais, alors simplement pour les auditeurs, si ceux qui ne connaissent pas Serre-Cavalier, parce qu'il n'y a pas que des Nîmois qui... Donc Serre-Cavalier, il y a un grand bâtiment central avec plusieurs étages, je sais pas...
5 étages.
5 étages, voilà. Et donc ça, c'est un grand bâtiment où il y a de la gériatrie des soins. Et puis, il y a combien ? Quatre pavillons où ce sont, à taille humaine, ce sont des services hospitaliers, si vous voulez, des étages d'immeubles, mais à Razemont, au rez-de-chaussée, ce qui permet quand même une convivialité. Donc 5, dans un parc magnifique sur une des collines de Nîmes, Cavalier, Serre-Cavalier, Cavalier par rapport au maire de Nîmes, hein, je vous le dis, c'est une petite parenthèse. Allez, on vous écoute, monsieur Abric.
Donc le docteur Monod, je l'ai bien connu, d'abord en 1967, c'est un homme humain, visionnaire, surtout, qui avait tout, comme vous venez de le dire, il fallait absolument s'occuper à fond de ces personnes âgées et surtout les évaluer, les réadapter et évaluer le domicile en fonction de leur future sortie.
Voilà, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'hôpital pour aller voir le domicile, l'adapter, et puis aussi faire le lien entre le domicile et l'hôpital.
Voilà, donc ce qu'il voulait surtout, c'était que la personne âgée, lors de son hospitalisation, pas voulue, mais
oui, obligatoire
ne perde pas...
ses racines.
ses racines, sa maison.
C'est lié avec son quotidien. Quoi.
Son quotidien, mais surtout qu'elle ne perde pas son autonomie. C'est le grand mot, c'est l'autonomie, mais en réalité, l'autonomie, c'était en situation vraiment réelle, c'est-à-dire devant le lit, devant la cuvette, pour l'habillage, le WC, la table à manger. C'était quelqu'un, il fallait maintenir cette activité à la personne âgée. Donc la soigner, c'était le rôle de ce qu'il avait déjà créé. C'était le premier étage qui était consacré à la médecine.
Médecine gériatrique.
Médecine gériatrique où on soignait.
On soignait les personnes âgées.
Mais il fallait absolument déjà s'occuper du futur de la personne âgée.
Une fois qu'il s'est guéri et cadré, comme on dit, il faut les réadapter, mais d'une manière spécifique.
Spécifique. Donc après, de là, ils étaient soignés. On évitait la régression. Il y avait une très bonne installation à faire. Le matériel, à ce moment-là, n'était pas toujours
Adapté comme maintenant. Il n'y avait pas de malade automatique. Oui.
Voilà, il n'y avait pas non plus des fauteuils terribles. Donc, la personne âgée n'était pas toujours bien installée. Il fallait l'installer, éviter la régression. Mmh. Et ce qu'on appelait à ce moment-là, c'était le syndrome de glissement.
Oui, mais ça se dit toujours. Enfin, de mon temps, ça se dit toujours. Un syndrome de glissement, pour les auditeurs, c'est en fait la personne âgée qui régresse à bas bruit, si vous voulez. Donc, on ne se rend pas compte. C'est les infirmières qui alertent le médecin. Et ils ont de moins en moins de capacités jusqu'à aboutir à un état plus ou moins végétatif qui précède l'agonie, qui précède la mort. Ouais. Donc c'est redoutable parce que ces glissements, dans le sens clinique, c'est qu'on s'en aperçoit pas.
Il fallait jouer contre ce glissement, c'est-à-dire s'en occuper immédiatement et faire, comme vous venez de dire tout à l'heure, tout faire pour eux, rien à leur place.
Voilà, c'est vous qui me l'avez dit, moi j'ai rien inventé, parce que malheureusement, M. Mondeau, je ne l'ai pas connu. Mais c'est vous qui me l'avez dit, alors je trouve ça extraordinaire.
Voilà, donc à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que l'excès d'assistance à une personne âgée...
L'excès d'assistance tue.
Voilà, comme vous venez de le dire, je n'osais pas le dire, tue. Tandis qu'il faut avancer avec elle, et puis le jour où la maladie a été guérie par la médecine, il faut passer à la réadaptation. Et là, c'était vraiment quelque chose de très important, où il fallait prendre du temps. Ce n'était pas toujours évident pour le personnel, qui est toujours un peu
toujours pressé.
À
l'hôpital, il est toujours pressé.
Voilà. Mais,
sauf les médecins.
L'ergothérapeute, dont le docteur Monod, que j'ai... j'étais infirmier... Dans la même unité, dans le même service.
Je vous interromps parce que vous n'allez pas le dire. Donc, on a bien compris que M. Monod a inventé un traitement spécifique à la gérontologie. Donc, c'est un immois quand même, c'est important.
Oui.
Alors, moi, ce que je regarde, mais je vais le dire après, c'est que ce n'est pas écrit. Donc, il faudrait l'écrire. Bon, parce que l'écrit, ce n'est pas parce que ça reste en mémoire. Mais vous, il vous a structuré, si vous me permettez l'expression,
de
la forme. C'est-à-dire que vous êtes rentré comme homme de ménage, il n'y a rien de... Maintenant, on dit technicien de surface, mais en fait, homme de ménage, puis après, vous êtes passé
infirmier,
vous êtes devenu infirmier, c'est lui qui vous a dit il faut que vous deveniez infirmier, et c'est lui qui vous a dit vous devenez devenir ergothérapeute.
Oui, parce qu'un jour, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, voilà, maintenant, le diplôme d'État d'ergothérapie et d'État... C'est
donc,
un diplôme d'État.
Il m'en faut un,
il
ça
m'en
sera vous.
Il m'en faut un. Voilà. Si vous acceptez de partir pour faire les études d'ergothérapie, la direction est OK.
Et alors, donc vous êtes parti, vous avez été diplômé, et puis après vous avez été formateur.
Voilà. Hein, voilà.
Et alors, l'ergothérapie, c'est important, rappelons-le, c'est la thérapie par le travail. Enfin, pas le travail, on ne fait pas une bétonnière. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des petits gestes, on fait des petites créations, ou des grosses créations, hein, pour alimenter. Hein, qu'est-ce que...
Donc,
dites-nous en plus.
Voilà. Donc, si vous voulez, il m'a convoqué dans son bureau, quand je suis revenu en ergothérapie, il m'a dit... Je sais que dans certains centres où on s'occupe des personnes âgées, j'aimerais de savoir ce qui se fait. Donc, il m'a envoyé du côté du professeur Junot à Genève.
Oui.
Je suis allé aussi à la Porte Verte à Versailles.
Oui.
Je suis allé dans plusieurs établissements qu'il connaissait, il s'était renseigné. Il voulait savoir ce qui se faisait vraiment pour les personnes âgées.
Il vous envoyait un éclaireur pour vous former.
Voilà. Donc, je suis allé voir, et en revenant, je me suis aperçu qu'il fallait absolument pas faire ce qu'ils faisaient eux, que c'était de la... Les personnes âgées étaient lavées, habillées,
oui,
toutes bien sur leur fauteuil. Et à ce moment-là, on leur faisait faire des exercices.
Voilà, mais vous avez inventé une ergothérapie de gériatrie, excusez-moi.
Voilà, donc c'était, il fallait, et là il me l'a dit, on va travailler au lit du malade.
Voilà.
Au lit du malade pour arriver à la réautonomiser dans tous les gestes à la vie quotidienne.
Alors si vous me permettez, c'est-à-dire que vous avez mêlé la kinésithérapie qu'on fait actuellement avec l'ergothérapie pour individualiser le patient.
Voilà.
Oui,
voilà.
À l'époque, vous
étiez le seul. À ce moment-là, j'étais tout seul, mais les kinés avaient fait du travail de rééducation. Oui. La personne âgée, elle avait été prise en charge aussi en rééducation, et moi, je devais mettre en œuvre fonctionnellement ce que les kinésithérapeutes rééduquaient dans la salle de rééducation. Il le disait, il y a une salle de rééducation, mais il faut la suite.
D'accord.
Voilà. Donc, à partir de là, on a travaillé sur au lit du malade, en situation réelle, et petit à petit, ce qu'il voulait aussi, c'était surtout qu'on pense à l'avenir.
Et
ça
oui,
veut dire qu'une fois que la personne âgée avait recouvré son autonomie, il fallait s'occuper maintenant du domicile.
Eh bien, vous remercie beaucoup de votre témoignage et surtout de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez inventé. Hein, et ne pas oublier cette formule de Marc Monod, tout faire pour eux et rien à leur place. Je vous remercie, messieurs, d'avoir évoqué le docteur Marc Monod et son œuvre. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir partagé votre expérience, votre vécu. Je pense que c'est des émissions de mémoire. Alors, j'ai l'habitude de finir mes émissions sur une note de biographie. Aujourd'hui, bien évidemment, je ne peux rien vous présenter sur le docteur Marc Monod. J'aimerais que des auteurs se penchent sur sa vie et son œuvre, sur Serre Cavalier, son histoire, ce que cette institution a réalisé pour les personnes dites âgées. Peut-être un sujet de thèse, j'appelle les directeurs de thèse à peut-être faire une thèse sur ce contexte et cette œuvre pour une future consoeur ou un confrère, on ne sait jamais. Je vous remercie beaucoup. Alors, je remercie aussi Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous rappelle mon annonce habituelle et régulière, celle de prendre votre cotisation à notre radio pour qu'elle puisse mieux vivre. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.